Bonjour, bonjour à tous, bonjour fidèles auditeurs. Bonjour Rémi.
Bonjour à tous, bonjour Martine. Les Chroniques de Bresse, partenaires de Radio B, consacrent leur année 2026 aux 170 ans des chemins de fer dans l'Ain. Nous évoquons ce sujet ?
Pas tout à fait. Le chemin de fer a été la meilleure réponse au problème des transports au début du 19e siècle, mais il s'est imposé après une période de tâtonnement face aux canaux.
C'est cette période que nous évoquons ?
En effet, à travers plusieurs projets qui ont été étudiés en Bresse durant les années 1820 et 1830, ils n'ont pas été réalisés, mais ils résument bien les recherches de l'époque pour améliorer les transports à moindre coût.
Nous en parlons après avoir écouté Franz Liszt et ses jeux d'eau à la Villa d'Est. Nous évoquons des projets pour améliorer les transports en Bresse au début du 19e siècle. Où allons-nous pour commencer ?
Au bord de la rivière, Lavelle, en 1826. Cette année-là, l'ingénieur Villiers, originaire de Perrex, commune voisine de Vonnaz, propose de relier Bourg à la Saône par un canal. Ce canal accepterait les bateaux qui naviguent sur la Saône et permettrait des transports sans rupture de charge. Donc, déchargement et rechargement entre la Bresse et Lyon.
Ce canal serait utile pour quel transport ?
Pour expédier les produits agricoles de la Bresse. Il stimulerait le commerce et les échanges. De nouvelles industries pourraient, par exemple, en complément de la filature de coton qui s'est établie à Pontvel grâce à l'énergie hydraulique. La rivière Velle compte de nombreux moulins qui pourraient être utilisés à d'autres fins que moudre des céréales.
Il faut aussi profiter de la proximité de Lyon, la seconde ville du royaume.
Lyon offre en effet de nombreux débouchés pour les produits agricoles et industriels, et la Saône est sa voie d'approvisionnement. Il faut que la Bresse profite de ses atouts. L'augmentation de la population lyonnaise entraînera l'accroissement de ses besoins dans tous les domaines. En outre, Lyon est dans un espace limité et des industries vont se créer dans ses alentours.
L'ingénieur pense que la Velle est mieux adaptée que la Ressouze pour alimenter un canal latéral.
La Velle compte de nombreux moulins qu'il ne faut pas supprimer, au contraire. Le canal serait creusé en doublant la rivière et la vallée de la Velle fournirait l'eau nécessaire au canal sans en priver les moulins. Elle a plus de ressources en eau que la Ressouze. Elle ne s'assèche pas, comme elle l'a prouvé à l'été 1826, car le marais de Vial, à Polia, est une réserve en eau qui lui assure sa continuité.
Reprenons le dossier de l'ingénieur. Quel serait son point de départ ?
Près de Bourg, sur la route de Châtillon, dans le creux de Corgenon, près de la Velle. Il doublerait cette rivière sans en suivre les sinuosités jusqu'à la Saône, près de Saint-Laurent, sans nuire aux multiples moulins ni à l'irrigation.
Quel serait son gabarit ?
Il serait creusé sur une largeur de 9,60 m, 30 pieds, et une profondeur d'1,65 m, 5 pieds, sur une longueur de 33 km et 16 écluses de 30 mètres de longueur. Les embarcations seraient tirées grâce à un chemin de halage latéral.
L'ingénieur donne-t-il d'autres indications ?
Il inclut son canal dans un cadre verdoyant et il a étudié les trafics potentiels, l'expédition des produits agricoles, la réception de matériaux de construction en provenance du Mâconnais et la circulation de bois de feu et de construction. Et des industries à créer, Tout cela s'amplifierait au fil du temps grâce au trafic généré par les villes situées sur la Saône. Il est aussi vrai que ce canal relie Bourg à Saint-Laurent, les deux marchés les plus importants de Bresse.
L'ingénieur paraît optimiste.
Il a fait une étude économique et le canal serait financé par un actionnariat. Ensuite, le trafic des denrées assurerait son fonctionnement. Il prévoit 10 bateaux par jour. Il pense enfin que ce canal serait plus avantageux qu'un chemin de fer ou une route ordinaire.
De nombreux canaux ont été creusés dans le nord de la France, mais celui-ci, en Bresse, ne le sera jamais. Il y a pourtant un précédent.
Le canal de Pont-de-Vaux à la Saône. Il a été imaginé en 1753, confié à l'ingénieur Racle en 1783. Mais il sera interrompu par la Révolution et le décès du promoteur. La ville de Pont-de-Vaux reprend la concession en 1835, puis l'abandonne par manque de moyens financiers. L'État permet son achèvement en 1843.
Le chemin de fer a été évoqué dans le dossier de Lavelle et il est notre deuxième sujet, avec entre autres deux lignes projetées, avec Bourg comme point d'arrivée de départ.
Et Lyon comme autre point de départ pour la première ligne. Là, ce sont deux entrepreneurs, M. Melet, M. Henri, qui proposent une ligne entre Bourg et Lyon-Croix-Rousse à travers la Dombes, là en 1832. Il s'agit d'une ligne en fer au sens littéral, c'est-à-dire deux rails parallèles où les wagons sont tirés par des chevaux, comme le premier chemin de fer de Saint-Étienne.
On parlait aussi de chemin à ornières en fer. Pourquoi des rails et donc un chemin de fer?
Pour des raisons de résistance à l'avancement. Sur des rails, à effort égal, un cheval tire une charge plus de 5 fois supérieure. En outre, la mise en place d'un tel chemin est relativement simple, à part les terrassements et les nivellements du sol, car le rail n'autorise pas les fortes pentes.
Évoquons ce chemin de fer à travers la Dombes. Pour quelle utilité?
Pour un double but. D'une part, vivifier cette contrée, un souci qui date d'avant la Révolution, et d'autre part, assurer l'approvisionnement de Lyon en produits agricoles. La ligne serait pratiquement en ligne droite, à voie unique, avec des croisements et des lieux de stockage. À l'entrée de Lyon, elle aurait deux embranchements, l'un vers le quartier populaire de la Croix-Rousse, l'autre vers le centre de la ville.
Le schéma paraît simple. Pourquoi n'a-t-il pas été réalisé, malgré le soutien des conseils généraux de l'Ain et du Rhône?
Les promoteurs n'ont pas pu réunir les capitaux nécessaires. Le chemin de fer est assez balbutiement en France. Et les premières lignes ne donnent pas les résultats escomptés, car les charges de fonctionnement ont été mal appréhendées. Cette ligne appartenait à un réseau pour desservir Lyon. Le projet est repris, sans plus de résultats, dans les années 1835-1836.
Au pied du Revermont et dans le Haut-Bugey, il y a d'autres projets ferroviaires.
Nous sommes toujours dans les années 1830. Et la carrière de Trécona, entre Jasseron et Césaria, fournit la pierre pour construire les maisons de Bourg-en-Bresse. La route d'accès a été classée route départementale en 1813 et son entretien est assuré grâce à une subvention du Conseil général de l'Ain. Les charrois, tirés par de puissants bœufs, étaient lourds et la dégradaient. Il fallait donc l'entretenir régulièrement pour la maintenir praticable.
Un chemin de fer serait plus économique?
Il faciliterait grandement le transport et ferait diminuer les coûts des matériaux. Compte tenu de la pente naturelle, les wagons chargés descendraient vers Bourg par la seule gravité et des chevaux les remonteraient à vide à Trécona.
Et l'autre projet dans le Haut-Bugey?
Le Rhône est navigable de Lyon à Seyssels, puis de Collonges à Genève. Un chemin de fer pourrait relier ces deux points pour assurer la continuité, malgré les difficultés du relief. Cela mettrait en communication Lyon et Genève, deux grandes villes, et stimulerait fortement les échanges sur le Rhône.
Pourquoi ces chemins de fer n'ont-ils pas été réalisés?
Dans l'immédiat, ils n'ont pas trouvé d'investisseurs pour se lancer dans l'aventure. Ils seront réalisés plus tard, lorsque le chemin de fer aura atteint une forme de maturité, avec l'emploi des locomotives à vapeur qui autorisent des charges plus lourdes et des vitesses bien supérieures. La ligne de la Dombes, qui nous est proche, a été réalisée dans les années 1865-1866.
Dans les années 1820-1830, le contexte n'était donc pas favorable.
À leur début, les chemins de fer ont été victimes de spéculations sur leurs actions. Et cela a rebuté les investisseurs. On parlait d'agiotage. Ensuite, l'instabilité ministérielle et la crise économique ont relégué au second plan les discussions ferroviaires. Le courrier de l'Ain du 20 avril 1839 écrit alors « Depuis 8 ans, nous parlons de chemin de fer au lieu d'en construire. Et sous ce rapport, nous sommes mis à la queue de la civilisation. »
Tout cela va évoluer.
Les débats ne sont pas inutiles pour savoir quel chemin de fer voulait la France. Des initiatives privées, avec des lignes éparpillées ou un schéma directeur structurant. Cette deuxième solution est retenue et le pays adopte l'étoile Legrand en juin 1842 pour construire des lignes au départ de Paris vers les villes frontières. Dans un deuxième temps, d'autres lignes compléteront cette toile, cette étoile.
C'est ainsi qu'une ligne de Lyon à Genève est étudiée, avec un embranchement vers Bourg et Mâcon.
La traversée du département de l'Ain est étudiée par Cerdon et Nantua, comme la route royale, ou par la vallée de l'Albarine, puis celle du Rhône, pour remonter à Bellegarde. Une troisième solution de Lyon à Genève évite le département en passant par l'Isère et la Savoie.
Cette dernière hypothèse est étudiée mais rapidement écartée.
Elle circulerait en pays étranger. En effet, la Savoie n'appartient pas à la France, mais au royaume de Piémont-Sardaigne. La France ne peut pas mettre ses intérêts économiques sous la dépendance d'un pays étranger.
Il reste les deux variantes par l'Ain.
Et c'est la vallée de l'Albarine qui est préférée, car son relief est moins tourmenté, même s'il faudra creuser des tunnels, dont celui du Crédeau, près de Bellegarde, long de près de 4 km.
La concession est accordée le 30 avril 1853 à une compagnie qui se crée pour l'occasion, la Compagnie des chemins de fer de Lyon à Genève.
Les procédures sont accélérées et les travaux débutent dès 1854 du côté de Bellegarde, là où les difficultés sont les plus grandes. Et en 1855, entre Lyon et Ambérieux, le secteur de plaine. C'est ainsi que les premiers trains commerciaux circuleront entre Lyon et Bourg à partir du 23 juin 1856. Voici 170 ans.
Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler. Nous nous quittons avec...
Avec Barbara. Au départ de Paris, gare de Lyon, pour aller vers l'Italie, les trains passaient par Bourg. Nous avons choisi Barbara qui évoque les voyages avec sa chanson « Gare de Lyon ». Avant de nous quitter, nous remercions Jimmy à la technique, les archives départementales où nous effectuons nos recherches. Et en vous disant au revoir à tous et à bientôt.
Je te téléphone près du métro Rome. Paris sous la plume lance mais m'ennuie. La Seine est plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg. Y a d'autres jardins pour parler d'amour. Y a la tour de Pise mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne un rendez-vous à la gare de Lyon. Sous la grande horloge, tu sais, près du portillon. Nous prendrons le train pour Capri-la-Belle. Pour Capri-la-Belle avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les pigeons. Viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment. À Capri-la-Belle en toute saison. Paris, mon Paris, au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise, demain c'est Venise. chante barcarolle, j'irai en gondole, j'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, menez-moi à la gare de Lyon, j'ai un rendez-vous près du portillon. Je vais prendre le train pour Capri la Belle, avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, je vais voir le fantôme du beau Roméo. Et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite, allons.